Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des maldocs avec Didier Stevens. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Didier, bonjour.
Bonjour Johan.
En préambule, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs?
Je suis Didier Stevens, j'habite à Bruxelles, Belgique. Je ne suis pas francophone en fait, je suis néerlandophone flamand. Donc s'il y a un certain accent, ça explique ça. Et je suis un spécialiste dans la sécurité informatique. Je me spécialise dans les maldocs, donc les documents malveillants. Et je suis aussi un Microsoft MVP et un handler du SANS Internet Storm Center.
Alors, un maldoc, qu'est-ce que c'est?
Un maldoc, pour commencer, c'est un document. Et c'est un document spécial. C'est un document qui contient du code qui va s'exécuter. Et typiquement, c'est du code malveillant.
Alors, tout document PDF est un maldoc, alors?
Non. Parce que pas tous les documents PDF contiennent du code. Le code dont toi tu parles, je crois que tu veux dire le code qui décrit la page. Donc le texte.
Ah non, moi je parlais du code qui s'exécute. Si tu sors du PDF A1, qui est du PDF strict, tu peux faire exécuter ce que tu veux dans du PDF. C'est un langage de programmation.
En effet, tu peux.
Alors que les gens pensent que c'est un document.
En effet, tu as du JavaScript. Mais ce qu'il y a de spécial dans le PDF, dans les différents readers de PDF, c'est que le JavaScript qui s'exécute est limité. Il ne sait pas accéder aux ressources de ta machine. Par exemple, les fichiers. Le JavaScript qui s'exécute dans le PDF ne peut pas lire ou écrire un fichier. Il devient malveillant quand il peut exploiter une faille dans le système. S'il y a une vulnérabilité dans le reader de PDF, alors il peut exploiter ça et comme ça gagner accès aux ressources du système.
Alors, pourquoi les attaquants créent-ils des maldocs?
Eh bien, d'abord, pourquoi les attaquants est-ce qu'ils nous attaquent? Parce qu'on a des choses qui les intéressent. Par exemple, de l'argent. On a de l'argent, eux, ils n'en ont pas, je suppose, et donc ça leur intéresse d'avoir notre argent. Donc, ce qu'ils faisaient dans le temps, c'est nous envoyer des exécutables malicieux, des fichiers exe, extension PE. Non, extension exe, par exemple, c'est des fichiers PE. Mais ce qui s'est passé déjà depuis longtemps, c'est que peu de gens, en dehors des informaticiens, sont intéressés dans des exécutables. Donc, les systèmes mail n'acceptent plus les exécutables comme d'attachement. Par exemple, Outlook savait déjà depuis longtemps que quand tu envoies un exécutable, et d'abord que le système mail, les différents serveurs l'accepteraient, donc si ça aboutit dans ta boîte, que c'est quand même bloqué par Outlook. Tu sais pas ouvrir ou exécuter l'exécutable. Donc les exécutables sont bloqués. Donc ils ont cherché une autre méthode de nous attaquer. Et une des méthodes qu'ils ont trouvées, c'est les documents. Parce que il y a plus de gens qui s'attendent à recevoir des documents. Et donc, quand ils reçoivent un document, par exemple une facture, ils sont plus inclinés à ouvrir ce document.
Alors, quels sont les différents types de maldocs?
On sait classer les documents malicieux, les maldocs, selon différents types. Donc, j'en ai déjà parlé un peu du PDF. Le PDF, il faut une vulnérabilité pour qu'il puisse exécuter son action malveillante. Tandis qu'avec les documents Office, par exemple, ceux qui supportent les macros, le VBA, Visual Basic for Automation, et donc c'est quelque chose qui est présent dans Word et Excel, mais aussi PowerPoint et en fait toutes les applications Office, même aussi des applications autre que Office qui supporte aussi le VBA, par exemple AutoCAD, qui est peut-être bien connu. AutoCAD supporte aussi le VBA. La différence entre le VBA qui tourne donc comme macro dans l'environnement Office et le JavaScript qui tourne en PDF dans l'environnement Adobe, c'est que le VBA, c'est un langage de programmation complet qui a accès à l'operating system. Donc, il a accès à toutes les ressources de l'operating system. Il a les mêmes droits que l'utilisateur. Donc, en VBA, je sais, par exemple, facilement télécharger un fichier, l'écrire sur disque et l'exécuter. Donc ça, c'est un type de document malveillant. Je veux dire, une classe. Hein. On dit si il faut une vulnérabilité ou si on utilise simplement une fonctionnalité du système. Un PDF, c'est vulnérabilité. Office, on utilise une fonctionnalité. Mais alors, on peut aussi classer les documents, par exemple, il y a des documents qui contiennent une charge malicieuse, mais qui ne s'exécutent pas automatiquement. Donc, les différents types de documents peuvent contenir une charge malicieuse, mais qui s'exécutent pas automatiquement. Alors, il y a d'autres types qui aussi contiennent la charge, mais qui s'exécutent aussi automatiquement. Donc, ça veut dire que quand on ouvre le document, on exécute aussi la charge. Tandis que les autres, ils sont plutôt là pour faire passer une charge d'un système à un autre, sans qu'il soit détecté, par exemple, par un antivirus.
En fait, en termes de format de fichier, il y a quand même énormément de choses qui sont actives et potentiellement dangereuses. En Europe, on connaît beaucoup tout ce qui est document Office. Mais en Asie, je sais pas, il y a Ishitaro qui est un éditeur japonais ou Angul, enfin comment ça s'appelle, HWP, là, Angul Word Processor, qui est un logiciel coréen et qui eux aussi ont été ciblés, enfin utilisés comme cible pour propager du malware. Donc, il y a les gens pensent documents malveillants, ils pensent immédiatement fichier Office avec une macro, mais en pratique, il y a énormément de formats qui peuvent s'avérer
malveillants. Absolument. Donc Ishitaro, c'est un exemple de documents où ils exploitent des vulnérabilités. Et il est populaire au Japon, et je crois aussi en Chine. Et donc, dans ces pays-là, on va plutôt rencontrer des documents malveillants qui sont de ce type-là que des documents Word.
Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tous ces logiciels de manipulation de documents ont besoin d'avoir un langage qui a accès au système. Pourquoi le langage de programmation ne pourrait pas agir que sur le document sur lequel on est ou dans un bac à sable? Je comprends pas pourquoi il y a besoin d'avoir un langage dans ces documents qui a accès au système.
Ouais, ça c'est une bonne question. Et par exemple avec Adobe, c'est le cas. Hein. Adobe JavaScript tourne dans un bac à sable. Il n'a pas accès à l'operating system sauf s'il y a une vulnérabilité. Et quand il y a une vulnérabilité, ici on sort un peu du contexte des documents malveillants, mais depuis la version 10 de Adobe Reader, ils ont aussi un autre bac à sable, hein, un bac à sable pour les process, qui contient les process. Donc si jamais il y a des codes malveillants qui s'exécutent, il va s'exécuter dans ce bac à sable. Et donc pour pouvoir sortir de ce bac à sable et accéder au système, il devra trouver une deuxième faille dans le système. Une deuxième vulnérabilité, et ça c'est une vulnérabilité dans le bac à sable. Mais ça c'est le cas pour Adobe Reader. Pour Microsoft, en effet, c'est différent. Microsoft, et je crois que ça c'est typique pour Microsoft, ils ont décidé de donner le plus de possibilités, le plus de fonctionnalités à leurs programmeurs pour qu'ils puissent en effet faire n'importe quoi dans ces documents. Et pouvoir faire n'importe quoi, en effet, ça inclut aussi un grand risque.
Oui, mais enfin, tous les gens qui font des macro-office utilisent ces fonctionnalités. Enfin, tu vois, l'export dans un fichier CSV avec Excel, par exemple, c'est pratique, donc tu es obligé d'avoir un accès disque.
Oui, en effet.
À partir du moment où c'était autorisé, les gens s'en sont servis. Et aujourd'hui, 20 ans après, c'est plus possible de bloquer ces fonctionnalités. Même si finalement, quand tu migres aujourd'hui sur de l'Office 365, par exemple, bah, du coup, là, tu n'as pas accès au système avec les macros. Donc,
Oui, et ce qu'ils avaient...
Le problème, c'est que des applications métiers étaient développées basées là-dessus. C'est que dans les entreprises, tu trouves des applications développées en macro et qui sont utilisées par les métiers.
Donc, elles ne migreront pas dans le cloud.
Oui, c'est justement, les applications qui sont développées comme ça, comment elles passent à Office 365
Elle passe pas.
Ah, c'est intéressant, ça fait une bonne raison de ne pas y passer, ça, c'est bien ça.
Ou ça va te faire un espèce de legacy que tu vas traîner pendant des années et des années jusqu'à ce que l'application soit réécrite ou que le métier meure.
C'est aussi le cas pour Windows RT, hein, donc le Windows qui tourne sur les tablettes, mais donc pas la version professionnelle, la version RT. Le Office qui tourne sur ces tablettes-là aussi n'inclut pas de macro.
Ah ben ça c'est bien, ça veut dire qu'il faut toujours lire les documents sur une tablette.
Oui, mais enfin, Windows RT, il est mort, hein, si j'ai bien suivi. Il ne maintient pas la branche ARM.
Oh ben c'est pas grave, tu lis sur une
mais
autre
c'est
tablette.
Pas parce que quelque chose n'est plus maintenu chez Microsoft que c'est plus utilisé. Hein.
Je sais pas s'il s'en est vendu beaucoup de toute façon, donc. Mais après, il y a. Il y a quand même une bonne question. Enfin, par exemple, si on utilise LibreOffice ou si on utilise une tablette ou un téléphone pour lire ses documents, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ça présente un avantage ?
Par rapport aux documents malicieux qui utilisent les macros, en effet, ça offre un gros avantage parce que LibreOffice, OpenOffice, ne supportent pas le VBA. Ils ont leur propre langage de programmation, donc il faut faire attention qu'on n'ait pas un document malicieux qu'ils soient programmés avec cet autre langage de programmation. Mais bon, ils sont beaucoup, beaucoup moins fréquents. On les trouve beaucoup moins. Mais donc, en effet, le VBA ne s'exécute pas. Une autre option, par exemple aussi, c'est de lire ça dans ton browser. Si tu as Google Mail, Gmail, et tu reçois un attachment, ben regarde-le dans Google Docs. Et là aussi, le code ne s'exécutera pas.
Ouais. Après, tout la plupart de ces documents utilisent quand même l'ingénierie sociale et essaient de trouver une façon malicieuse de te faire cliquer parce que les macros maintenant sont désactivés par défaut. Donc il faut un voire deux clics pour activer les macros et t'as toujours soit une image sur laquelle il faut cliquer, soit un bouton, soit quelque chose qui donne envie à l'utilisateur d'activer les macros et de se faire avoir.
Oui, mais c'est pas dans tous les cas qu'il faut avoir de l'ingénierie sociale. Il y a aussi des cas où les documents s'exécutent quand même automatiquement et qu'on ne doit pas autoriser les macros. Par exemple, il y a des systèmes mail qui reçoivent des attachments et quand ils sauvegardent cet attachment sous disque, cet attachment n'est pas marqué qui vient de l'Internet. Okay, donc, il n'a pas le flag dans l'ADS qui dit qu'il vient de l'Internet. Okay? Et donc, il est considéré à ce moment-là comme un fichier local. Et le système Microsoft Office va le faire confiance quand on l'ouvre.
Donc en fait, quelqu'un qui clique sur la pièce jointe depuis Outlook se fait avoir, mais quelqu'un qui fait bouton droit enregistré sous...
Ça fonctionne correctement. Mais par exemple, moi j'ai vu des systèmes comme Lotus Notes où ça fonctionne pas ça se doit.
C'est quand même un problème vieux comme le monde, ces histoires de macros et de documents. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années ?
C'est même du millénium précédent hein, que ça date les documents malicieux, mais ça reste populaire. Donc dans les années 2010, il y en a eu plein qui exploitaient le PDF. Et maintenant, depuis octobre-novembre 2014, il y a plein de documents malicieux Office qui sont envoyés pour, par exemple, distribuer Drydex ou d'autres trojans de bancaire.
Oui, parce que ça date des années 90, de 96.
Oui, oui.
Bah, ça date de l'invention du mail.
Enfin, moi, j'ai pas cherché à regarder de quand ça date, mais pour moi, ça date de l'invention des macros. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la possibilité d'avoir de la programmation dans les documents, et moi, je suis d'une génération qui a connu WordPerfect, et dans WordPerfect, il y avait un langage et un système de programmation qui était beaucoup plus, en tout cas dans le contexte de l'époque, plus puissant que le Word de l'époque. Et donc, déjà, dans WordPerfect, il y avait ça. Et même si on se passait les documents par des techniques que la génération d'aujourd'hui ne connaît pas, il y avait des espèces de virus, si je puis dire, WordPerfect.
Oui, oui, tout à fait. Mais bon, moi, j'ai aussi utilisé WordPerfect et c'était encore sous MS-DOS. Et bon, en MS-DOS, tu n'avais aucune sécurité. Hein, donc, tu pouvais envoyer n'importe exécutable.
Ah, c'était cool. Hein.
Ouais.
le premier virus vraiment connu, c'était Mélissa en 1999. qui lui s'est propagé sur la messagerie. Et donc là, ça a vraiment, ça s'est propagé à toute vitesse.
Ouais, ouais, ouais. Mais là, un autre élément important, c'était la disponibilité d'Internet, hein, que Internet existait et qu'il y avait déjà beaucoup de gens sur Internet qui recevaient ces documents. Et alors, la troisième partie, c'était le sexe, qui faisait que les gens étaient bien intéressés à ouvrir le document.
Ingénierie sociale.
Absolument. Il y a des beaux exemples. Et moi, je fais aussi régulièrement des vidéos sur mon compte YouTube. Et j'ai une fois montré un exemple d'un document malveillant, un document Word. Et soi-disant que le document est encrypté et qu'il faut autoriser les macros. Il vous explique comment appuyer sur les boutons pour autoriser les macros. Et alors, le document sera décrypté. Et en effet, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ça paraît qu'en effet, le document se décrypte parce que on voit simplement une page blanche. Et quand on appuie sur le bouton qui autorise les macros, on voit le texte. Et c'est simplement fait par une macro avec le texte qui est en blanc. Et alors, la macro change la couleur du blanc au noir, et comme ça, le texte est décrypté. Soi-disant décrypté.
J'ai vu une alternative aussi avec du texte sibyllin, et il y a un petit texte au-dessus qui dit « Si le document est mal encodé, activez les macros. »
Oui, et un autre que j'ai vu aussi, c'est avec un plugin, soi-disant. Hein, qu'il y a un petit icône d'un plugin qui s'affiche, hein, « Plugin manquant, appuyez ici » pour activer le plugin, et c'est la même chose.
Et est-ce qu'il y a des risques sur autre chose que les tablettes, enfin, il y en a moins sur les tablettes que sur les ordinateurs. Par exemple, les liseuses, là, pour les livres électroniques, il y a aussi le risque d'avoir des livres malfaisants ?
Non, non. Quand on parle de livres malfaisants, donc c'est surtout du PDF dont on parle, hein, parce que le format MOBI, hein, c'est de l'HTML dans un fichier zip. Mais les autres, c'est du PDF. Mais là, les lecteurs PDF sur ces livres électroniques-là n'ont pas un interpréteur JavaScript. Donc, ils ignorent complètement le JavaScript qui se trouve là-dedans. Ça, c'est aussi une caractéristique des readers PDF. Tout élément qui se trouve dans un document PDF et qui n'est pas reconnu par le reader est simplement ignoré de façon silencieuse. Il va pas donner une erreur ou quoi. Ça ne fait rien.
Oui, tant qu'on parle de format HTML, il y a aussi le HTA qui était très utilisé pendant longtemps comme format malveillant pour transport.
Oui, absolument. Et encore maintenant...
C'est quoi le HTA ?
HTML application. C'est en gros un site web complet qui est dans une seule archive et qui était très utilisé pour faire par exemple des fichiers d'aide sous Windows parce que tu cliquais sur les différents liens du glossaire et tu pouvais... Mais en fait, c'était des pages web qui étaient en zone full trust.
Ouais.
Et donc, dès que tu avais de l'ActiveX ou des scripts à l'intérieur, tu pouvais instancier n'importe quel objet ActiveX et donc accéder au disque dur, quoi. Et en fait, ce truc-là, ils n'ont jamais réussi à le sécuriser, donc ils ont juste arrêté de supporter le format en disant, ben voilà, c'est pas assez moderne.
Mm-hmm. Ouais. Mais comme plein de technologies de Microsoft, ça existe toujours, hein, ça peut être utilisé. J'ai encore récemment vu un exemple avec un document malicieux qui téléchargeait un HTA et alors qu'il l'exécutait.
Ben, l'intérêt de ce genre de document, il me semble, c'est que ça s'ouvre avec une application, on va dire, trustée.
Oui, absolument.
Parce que si tu télécharges un exe et que tu le lances, il va probablement être bloqué dès qu'il y a de l'app locker ou des stratégies de restriction logicielle. Par contre, si tu lances l'interpréteur HTA, qui doit être même internet, non, ça doit être msHTA.exe ou un truc comme ça, lui est signé par Microsoft et il se trouve dans le répertoire système, donc il est complètement valide. Mm-hmm. Et simplement, il peut exécuter du code arbitraire derrière, puisque c'est un interpréteur de script.
Oui, en effet. Et ce qu'il y a aussi, c'est que puisque c'est de l'HTML avec de JavaScript, on sait aussi utiliser plein de techniques d'obfuscation pour rendre la détection beaucoup plus difficile et aussi l'analyse beaucoup plus difficile parce que il y a plein de codes supplémentaires, des noms de variables qui... Allez, c'est obfusqué.
Ouais, mais la grande question dans ce cas-là, c'est comment est-ce que ça fait pour marcher? Enfin, comment est-ce qu'il est possible que ça marche encore? Comment est-ce que les solutions de sécurité, on est en 2016, n'arrivent pas à détecter, à bloquer ça? Parce que tu as quand même, t'es quand même l'auteur d'une collection d'outils qui permet de extraire les macros, les VBA, les choses comme ça. Et comment est-ce qu'il est, enfin, possible que les solutions de sécurité aujourd'hui soient facilement contournables? Parce que nous, on fait régulièrement des audits où on fait du phishing, des choses comme ça, et on arrive sans grande difficulté à contourner la plupart des solutions de sécurité, de sandboxing avec des macros, en obfusquant un peu, en faisant un peu de chiffrement en exécutant la macro à la fermeture plutôt qu'à l'ouverture. Enfin, et on arrive toujours à contourner les solutions de sécurité et arriver dans la boîte mail de l'utilisateur. Alors que toi, tes outils open source permettent de détecter tout ça?
Non, ce sont pas des outils de détection. C'est des outils pour des analystes. C'est donc des outils d'analyse.
Oui, il suffirait de les repackager. Enfin, c'est une question que je voulais poser après, mais il y a d'autres outils comme MacroRaptor, par exemple, qui permet juste de te qualifier un document Office et qui te dit s'il y a une macro qui exécute du code, si elle écrit sur le disque et si elle s'ouvre automatiquement. Nous, on l'a packagé en interne pour nos RH et nos commerciaux. C'est juste un petit binaire. Tu mets un document Office dessus et ça te dit attention danger ou c'est bon, tu peux l'ouvrir. Mm-hmm. Et rien que ça, c'est déjà quand même super efficace.
Je vais aussi un peu mettre le contexte de mes outils. Donc, je voulais développer des outils d'abord open source et que tout le monde peut utiliser de façon gratuite et aussi regarder ce qu'ils font, les améliorer, les changer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, je ne voulais pas être dépendant de l'application mère. Donc, je veux dire, ne pas avoir besoin d'un Adobe Reader ou avoir besoin d'un MS Office pour pouvoir analyser ces documents. Je les ai écrits en Python parce que je voulais aussi qu'ils puissent s'exécuter facilement sous différents operating systems, et donc pas seulement Windows, mais aussi sur OS X et sur Linux. J'ai aussi une version que je sais faire tourner sur ma tablette, où j'ai Python. Et donc, ça me permet de faire les analyses sur cet operating system sans avoir besoin, par exemple, de MS Office. Et ça, c'est aussi une raison importante pour laquelle j'ai développé les outils. Okay? Et alors, au fur et à mesure que je rencontrais des différents version, différents samples de documents malicieux, j'ai ajouté différentes fonctionnalités pour pouvoir analyser ces documents. Par exemple, tout au début, dans début de octobre-novembre 2014, quand ils commençaient à nouveau à envoyer des documents Office malicieux, c'était des samples downloaders, donc des téléchargeurs. Ils avaient une URL, ils download le fichier, ils téléchargent le fichier, l'écrivent sur disque et l'exécutent. Et l'URL était simplement lisible en clair dans le VBA. Il fallait simplement faire une recherche sur HTTP et on avait trouvé l'URL. Mais ils ont aussi, après ça, commencé à faire l'obfuscation du string et de la chaîne de caractères pour, par exemple, simplement la renversée, au lieu de lire de gauche à droite, qu'il faut la lire de droite à gauche. Ça, c'était une des premières techniques. Et moi, j'ai commencé à... D'abord, j'ai prévu que mon outil d'analyse pour les documents Office, MS Office, donc OLEDump, je l'appelle, OLEDump, qui puisse accepter des plugins, pour qu'on puisse étendre sa fonctionnalité avec des simples plugins qu'on écrit en Python. Et j'en ai écrit plusieurs qui puissent décoder les différentes façons d'encoder les URL. Et donc, il y a chaque fois des textes URL et puissent te dire d'où le téléchargement se fera. Parce que en tant qu'analyste de malware, de documents malicieux, t'es pas seulement intéressé de savoir si c'est malicieux ou pas, hein, mais tu veux aussi savoir ce que ça fait. Donc, par exemple, si c'est un téléchargeur, tu veux savoir d'où ce sera téléchargé. Et quand tu as, par exemple, l'URL et tu es dans une entreprise, alors tu peux alors, par exemple, aller voir dans les logs des proxys pour voir si tu as eu des utilisateurs qui ont ouvert le document et qui ont téléchargé le malware, le trojan.
Quand même, Vlad, je pense que le problème, ce sont les faux positifs. Alors, moi, j'ai pas vu de mes yeux, mais on m'a raconté quand même qu'il y avait une entreprise où la sysadmin avait développé son outil de gestion de parc entièrement en macro Excel. Et sa feuille Excel, elle fait 2 gigas. Et elle se connecte sur toutes les machines du parc, elle lance des scripts d'installation, etc. Donc, voilà, ce genre de truc, ça pourrait être détecté comme un virus. Ouais.
Non, mais après, tu peux limiter.
Parce qu'effectivement, si tu commences à avoir un doute sur un fichier, c'est très facile de classifier en disant « ouais, ça a l'air vraiment louche ou pas ». Mais pour un utilisateur lambda qui reçoit un truc par mail et qui se doute de rien, c'est plus compliqué, quoi.
Ça peut te faire une première qualification. Si c'est un document que tu reçois depuis Internet, donc mail ou autre, tu le passes sur une petite moulinette qui te dit « attention danger » ou « c'est bon ». Et si « attention danger », tu l'envoies à ton SOC ou à une équipe sécu qui te le qualifie derrière.
Oui, tout à fait.
Non, mais de toute façon, aujourd'hui, s'échanger des documents par mail, c'est complètement absurde. Je veux dire, faire du travail collaboratif sur un document Word en s'envoyant des versions par mail et en les renommant .1, .doc, .2, .doc, .3, .doc, etc., ça date des années 90.
Ah non, moi je suis. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que c'est aussi un moyen de contrôler la diffusion de l'information d'une manière beaucoup plus ergonomique et pratique que ce que permettent les outils comme Google ou Microsoft de partage aujourd'hui. Si tu prends par exemple le format .blue, avec le format .blue, tu diffuses par mail à des gens que tu connais pas, qui ont une infrastructure qui a aucun rapport avec la tienne. Bon, alors d'accord, tout le monde pourrait utiliser Google Doc, hein, mais c'est vachement plus pratique.
Je ne connais pas le format .blue, désolé.
Ah d'accord, le format .blue, c'est... Ah ben là, ça mérite un autre épisode. Parce que le format .blue, c'est juste comme du PDF, mais avec de la sécurité. Et donc, tu décides qui a le droit de lire et jusqu'à quand.
Mais ça, tu peux le faire avec du PDF aussi.
Ah non, non, le point blue, c'est ergonomique.
Tu peux le faire.
C'est français, c'est secure. Donc, je te laisse analyser sur Internet. Blue File, société Forcom, j'ai pas d'action.
Non, mais tu peux le faire aussi avec Microsoft Write Management ou avec les choses intégrées dans PDF.
Ah oui, et Madame Michu, peut-être.
Ah oui, complètement.
Ah non, c'est ça.
Maintenant, je dois dire, donc...
On en reparle.
Je travaille aussi comme consultant dans différentes sociétés financières et ce que je vois là dans les échanges d'emails, les documents Word, en effet, normalement les documents Word Office, financiers, les documents Word normaux ne contiennent pas de macro. Mais les documents Excel qui s'échangent entre eux, ces différentes entreprises financières, il y en a qui contiennent des macros pour faire des calculs financiers.
Mais ils contiennent tous des macros, et puis en plus d'une sophistication absolument invraisemblable, avec des liens sur je ne sais pas combien de feuilles. Enfin, tout le business repose là-dessus. La société repose sur les macros Excel.
D'accord, mais est-ce qu'il est légitime qu'une macro exécute du code et ait des fonctionnalités quand même qui sont pas forcément utiles pour une application normale?
Alors justement, les malwares, enfin les malwares qui utilisent des macros en général, ce qu'ils font simplement avec la macro, c'est télécharger un exécutable qui aura des capacités beaucoup plus importantes.
Ça, c'est ce qui est
que la macro. Et donc. Et donc, dans ce contexte-là, c'est relativement facilement détectable en sandboxing.
Donc, en effet, le sandboxing est une solution. Et c'est vrai aussi que il y a pas mal de malwares qui détectent aussi qui sont dans un environnement de sandboxing. Mais ce que j'ai vu aussi dans plusieurs exemples de documents malveillants, c'est que la détection d'un environnement de sandboxing se fait avec des macros, donc même avant le téléchargement.
Oui, ça marche très très bien. Il y a plein de techniques assez rigolotes pour justement détecter les sandbox, comme par exemple compter les icônes sur le bureau, détecter les pilotes du disque dur, s'il y a du VMware dedans, tu considères que c'est une sandbox, vérifier la résolution de l'écran, la quantité de mémoire, le CPU, et à partir de ce type d'informations, tu peux qualifier l'environnement et te dire oui, c'est une sandbox ou pas.
Mmh, absolument.
Il y avait une présentation très intéressante à la BotConf 2015 sur le sujet, et j'ai totalement oublié le nom du présentateur, mais ça se retrouve sur le site web de la BotConf, et justement sur des techniques pour détecter les sandbox.
Alors de l'autre côté, il y a aussi des méthodes d'anti-sandboxing, le but étant de déterminer si le malware essaye de déterminer s'il est dans une sandbox ou pas, pour déterminer s'il est malveillant ou non.
Oui. C'est ce que en effet des sandbox plus perfectionnés font. Et un comportement où on essaye de détecter une sandbox est aussi considéré comme un comportement malicieux.
Oui, forcément, oui.
Bon, mais donc, c'est quoi les solutions pour se protéger, à part utiliser les points Blue? Parce que j'ai vu que Microsoft avait sorti récemment une GPO pour les entreprises qui permettait de bloquer totalement l'exécution de macros en provenance d'Internet, de limiter un sous-ensemble de documents identifiés.
Sauf les macros signés,
Non, on peut aussi décider de bloquer les macros signés, mais bon, ça c'est le niveau le plus haut. Donc, si on décide de bloquer les macros signés, on bloque toutes les macros.
La signature de macro, c'est disponible depuis longtemps. Et en fait, ça n'a jamais vraiment pris. Est-ce que quelqu'un signe ses macros?
Moi, je le fais. Mais c'est plutôt pour marquer que moi, je l'ai fait. Mais non, en effet, le problème, c'est que les macros, c'est souvent développé par des utilisateurs dans l'entreprise qui font pas partie de l'informatique et donc qui d'abord ne connaissent pas le système de signature et deuxièmement aussi qui n'ont pas le certificat pour faire une signature.
Alors ensuite, Microsoft a essayé de séparer les formats doc en faisant le doc X et le doc M.
Oui.
Mais finalement, les attaquants envoient des docs M et puis les filtres de messagerie laissent passer les docs M. Donc, est-ce que là encore, c'est pas vraiment une mesure efficace?
Non, et de ce côté-là, il y a aussi plein de trucs qu'on puisse faire avec Microsoft Word et aussi Excel. En fait, ces applications, hein, Microsoft veut être le plus flexible possible. Et donc, si tu ouvres un document avec une certaine extension, hein, disons un point doc, mais qu'en réalité c'est pas un point doc mais un doc M, hein, eh bien alors Microsoft Word va bien vouloir t'aider et il va quand même ouvrir le document et le charger pour toi. Il y a par exemple, on peut aussi sauvegarder de l'HTML, hein, de l'XML et tout ça. Tous ces formats ont leur propre extension, mais si on change l'extension en une autre extension, par exemple, .doc, alors Microsoft Word va quand même ouvrir le fichier pour toi. Et un document, un format qui est utilisé par les criminels et qui est aussi très, très mal détecté par les différents antivirus, c'est quand on sauvegarde le document Word avec les macros comme un MIME type, comme un fichier mail multipart. Et ça, c'est un document Word ou un document Excel peut être sauvegardé de cette façon. Si je me trompe pas, il faut choisir dans le dialogue de sauvegarde MHTML ou un truc comme ça. Et alors, il sera sauvegardé dans ce format MIME type. Et ensuite, dans ce format-là, on peut aussi ajouter des strings supplémentaires pour que les différents systèmes ont plus de mal à détecter. Par exemple, on peut mettre une chaîne de caractères au début, qui n'est pas une entête, mais simplement une chaîne de caractères aléatoire. Ça va dérouter pas mal d'antivirus qui vont pas reconnaître le fichier, le type MIME, mais qui vont simplement interpréter ça comme du texte et dire que c'est pas, ça peut pas être malicieux puisque c'est du texte. Ça, c'est l'interprétation. Mais alors, si on l'ouvre avec Word, parce qu'il a l'extension doc, par exemple, et Word l'ouvre, l'interpréteur de Word de ce format est beaucoup plus souple et il va quand même ouvrir ce fichier. Et donc, en effet, c'est les fichiers avec l'extension .mso qui se trouvent dans ces fichiers MIME.
Tu parlais aussi d'images et de codes exécutables au sein des images. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui. Donc, j'ai vu plusieurs exemples de sites web qui ont été compromis et où l'exécutable, donc qu'on veut télécharger du site web, n'est pas stocké en tant qu'exécutable, mais il est stocké dans une image. Et j'ai vu différentes façons de le faire. Par exemple, la façon la plus simple, c'est simplement de l'attacher à la fin de l'image. Et donc, on a l'image, et après l'image, on ajoute l'exécutable. Et alors, le téléchargeur, par exemple, dans une macro, va télécharger le fichier et va extraire l'exécutable. Mais j'ai vu aussi des exemples plus sophistiqués où l'image est une image complètement valide. Donc, par exemple, où ils ont mis l'exécutable dans de l'exif, par exemple. L'exif, c'est le format qui vous permet de mettre des propriétés comme la date et l'appareil photo qui est utilisé pour prendre la photo, l'image.
Oh, mais là, c'est encore tout un autre domaine qui est... enfin, on pourrait parler, par exemple, de la détection de contenu automatique par Internet Explorer sur les téléchargements.
Mmh. Moi, je pense que dès qu'on touche à tout ce qui est images et vidéos, c'est carrément une autre émission.
Bah, juste pour ce qui s'appelle le content type sniffing, c'est que, alors je sais pas si ça doit pas être vrai dans les dernières versions d'Internet Explorer, mais avant, Internet Explorer ne prenait pas du tout en compte prenait en compte le content type qui était renvoyé par le serveur, mais il essayait quand même de détecter le contenu du fichier, et à partir de là, pouvait décider de l'ouvrir avec une application différente s'il trouvait que finalement c'était un document Word et pas une image, quoi.
Ouais. Il y a pas mal d'applications, Microsoft qui font ça. Et, Ange Albertini a plusieurs exemples de ce genre de fichiers où il crée un fichier qui est par exemple un document Excel si on l'ouvre dans Excel et un document Word si on l'ouvre dans Word ou un document qui est un JPEG, une image, une photo qu'on ouvre avec pour visualiser l'image. Et si on l'ouvre avec un PDF reader, ben c'est un PDF.
Je recommande d'ailleurs à nos auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode avec Ange Albertini de réécouter cet épisode ou de l'écouter. Il était vraiment très, très intéressant. Alors Didier, tu seras bientôt à la nuit du hack?
Oui, en effet, je vais... faire mon workshop sur les documents malicieux Office à la nuit du hack. Donc c'est un workshop qui dure à peu près 2 heures et j'ai créé une trentaine d'exercices de documents les plus simples et pas par pas les documents deviennent de plus en plus compliqués, donc l'analyse devient plus difficile et je montre comment utiliser mes outils pour faire ces analyses. L'analyse de ces documents-là.
Donc, chers auditeurs, si la question vous intéresse, je vous invite donc à vous rendre à la nuit du hack et participer au workshop de Didier. Hervé ?
Est-ce que l'utilisation de postes de travail virtualisés dans le cloud est quelque chose qui peut contribuer à aider à la détection plus facile de ces documents malfaisants ?
Non, moi je vois pas comment. Parce qu'aussi, si c'est des environnements virtuels, il y a plus de chances que le malware va le détecter et va rien faire. Donc ça devient encore plus difficile de détecter de façon interactive et de détecter de façon dynamique qu'il y a une action malicieuse parce que cette action malicieuse ne va pas se produire.
Ah bah alors c'est une bonne solution.
C'est une bonne solution.
Puisque parce que le finalement le document malfaisant, il est malveillant, il voudrait bien y arriver mais il n'y arrive pas donc.
C'est une bonne.
Donc finalement autant abandonner les postes de travail en local et puis les virtualiser dans le cloud alors.
Ouais, mais on sait ce que les criminels vont faire quand tout le monde va utiliser des documents des postes de travail virtualisés. Hein.
Enfin d'ici là les gens n'utiliseront peut-être plus Office.
Hein. Ah oui.
Ouais, sinon c'est vieux comme le monde ta technique. Tu sais il y a 20 ans tu créais un pipe qui s'appelait SoftIce et t'avais plein de malware qui se lançait pas.
Hein. C'est la méthode vaccin.
Oui.
Mais bon, il n'y a pas des clés de registre miracle dans la registrerie pour lutter contre le problème.
Non.
Bah, tu as la fonctionnalité dont parlait Nicolas tout à l'heure, qui marche sur Office 2016 et qui permet de désactiver vraiment les macros et que tu peux contrôler par GPO. Enfin, ça, par contre, ça laisse fonctionnel les macros signés.
Non, mais ça, c'est une excellente solution. Hein. Comme ça, il y a une autorité dans l'entreprise qui signe les macros et le tour est joué. Et puis comme ça, tout le monde aura besoin de PKI, de choses un peu sérieuses, organisées. Ça, c'est bien pour les consultants en sécurité. Ça.
Et des formations sur la PKI.
Dans 2 semaines.
Bon Didier, un grand merci pour ta participation.
Je vous en prie.
Alors, si nos auditeurs souhaitent se pencher sur la question et, par exemple, utiliser tes outils, sur quel site ils peuvent se rendre ?
Mon blog, par exemple, blog.didierstevens.com ou bien simplement didierstevens.com.
Bon, ben, merci encore. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Au revoir.
Au revoir.